Vous écoutez, on lit pour vous.
L'école dans la rue, un texte de Jessica Nadeau, paru le 26 janvier 2024 dans Le Devoir. Elle n'a pas encore 20 ans et, pourtant, Cathy s'est beaucoup promenée depuis qu'elle est sortie des centres jeunesse il y a près de 2 ans. Elle a parfois peur de se ramasser dans la rue, mais elle trouve toujours un endroit où dormir, chez des amis ou un membre de la famille, dans des refuges pour jeunes. Un jour, une intervenante a guidé ses pas jusqu'au centre de jour chez Pops. Et c'est là qu'elle a renoué avec ses rêves, dans une école pour les jeunes de la rue, sise à même le centre de jour où ils vont chercher un peu de répit. La file déborde jusque sur la rue Ontario, près du boulevard Papineau. À l'intérieur du centre de jour dans la rue, aussi connu sous le nom de chez Pops, en référence au fondateur Emmett Johns, des dizaines de jeunes âgés de 16 à 25 ans attendent leur tour pour aller prendre un bon dîner chaud à la cafétéria. Certains arborent des looks éclatés, mais la plupart font profil bas. Certains n'ont visiblement pas dormi de la nuit. Ils viennent chercher un peu de chaleur, celle qui réchauffe le corps et les cœurs. Ils viennent manger, mais aussi prendre une douche, obtenir des vêtements propres, faire de l'art-thérapie, se défouler sur la batterie au studio de musique, rencontrer une psychologue, une infirmière ou des intervenants en réinsertion sociale. Peu après 13 heures, une poignée de jeunes montent à l'étage pour se rendre à l'école secondaire Emmett Johns. À l'opposé des grosses polyvalentes, l'école, ici, se résume à une seule salle de classe, un local parmi tant d'autres au cœur du refuge. Mais c'est néanmoins une école reconnue par le Centre de services scolaires de Montréal qui accueille les jeunes les plus en marge de la société. Jeunes abandonnés. Ces derniers temps, dans l'actualité, on a beaucoup parlé de l'école, de la grève, du débat entre le privé et le public. Nous, on a tous ceux qui ne se retrouvent pas dans l'école traditionnelle ou que l'école peut avoir, d'une façon ou d'une autre, abandonné, résume Marie-Noëlle L'Espérance, directrice de l'organisme Dans la rue. Elle rappelle que ce ne sont pas les jeunes qui ont abandonné l'école, mais l'école qui les a abandonnés. L'endroit qui devrait être un facteur de protection a failli pour ces jeunes décrocheurs qui sont aujourd'hui à la rue, dit-elle. En les chicanant parce qu'ils ne sont pas assez concentrés, alors qu'ils sont trop envahis par leur situation personnelle et qu'ils ont le ventre vide. En imposant un cadre très strict auquel certains jeunes n'arrivent pas à se conformer. En tardant à offrir certains services à des enfants ayant des défis d'apprentissage parce que les parents n'avaient pas 2 000 $ pour aller chercher un diagnostic en neuropsychologie. Sa collègue Sylvie Cormier, coordonnatrice des services d'intégration sociale, abonde dans le même sens. « Ce n'est pas le jeune qui a une deuxième chance. C'est nous qui avons une deuxième chance de lui montrer que l'école, ça peut être pour lui. C'est à nous de nous adapter. » L'apprentissage est personnalisé et les élèves bénéficient d'un accompagnement psychosocial pour leur permettre de persévérer malgré les innombrables défis auxquels ils font face dans leur quotidien. Ils peuvent déjeuner et dîner gratuitement à la cafétéria et reçoivent de l'aide pour payer le transport. Bref, on met tout en place pour maximiser leurs chances de réussite. Une école de rue, ça permet de leur offrir un lieu où ils ne vont pas se sentir jugés et où ils peuvent cheminer et exister avec leurs couleurs qui leur sont propres, explique Madame L'Espérance. Des fois, ils ont des acquis qui remontent à un niveau de 6e année du primaire. Mais ici, ils n'ont pas le sentiment d'être jugés malgré l'âge auquel ils sont rendus. Rallumer l'étincelle. En ce moment, il n'y a que 5 élèves qui fréquentent l'école, mais une dizaine d'autres devraient se joindre à eux incessamment. Ça fonctionne, assure la coordonnatrice Sylvie Cormier. Les jeunes veulent faire autre chose. Un retour à l'école, pour eux, c'est super important. On veut être l'étincelle, leur donner le goût et la possibilité de se projeter dans la vie, renchérit Marie-Noëlle L'Espérance. Si la majorité des jeunes ont la possibilité d'explorer différentes options de carrière au cours de leur parcours scolaire, ceux qui atterrissent au refuge ont souvent des horizons limités, constate-t-elle. Quand la seule chose que tu connais, c'est la job-in au dépanneur et que tu découvres que tu as le droit de croire en toi et d'avoir un futur, c'est énorme. Et ça fonctionne, si l'on se fie au discours des jeunes que le devoir a rencontrés. Xavier, 20 ans, met toute son énergie à finir ses mathématiques pour poursuivre ses études au cégep en lutherie. L'accès à la salle de musique où il peut gratter sa guitare avec ses amis l'aide à rester motivé. Kiora, 24 ans, veut faire des études en herboristerie. À l'époque, on la pointait du doigt parce qu'elle était « trop lente », confie-t-elle avec amertume. Elle est donc heureuse de pouvoir avancer à son rythme aujourd'hui. Et j'ai l'impression que mes défis sont un peu plus pris en compte, ajoute la jeune femme aux yeux lourdement maquillés et aux cils interminables. Cathy, elle, veut aller au cégep pour travailler avec de jeunes délinquants ou des enfants. Elle n'a jamais voulu lâcher l'école, assure-t-elle, mais une série de circonstances lui a fait prendre quelques détours à l'âge de 16 ans. Depuis, elle a le désir de reprendre son parcours scolaire, ce qu'elle a pu faire au refuge. En parallèle à ses études, elle tente de remettre sa vie sur les rails. Elle a eu de l'aide pour faire ses impôts, a reçu de l'aide sociale et s'est qualifiée pour le programme de supplément au loyer. Mais tout n'est pas facile. Ça fait 3 mois que je cherche un appartement. J'ai fait plein de visites, mais les propriétaires ne sont pas trop flexibles avec le programme. Elle hausse les épaules en soupirant. J'essaie juste de m'en sortir. Je n'ai pas eu de chance dans la vie. C'était L'école dans la rue, un texte de Jessica Nadeau paru le 26 janvier 2024 dans Le Devoir.
La valse des continents et du climat. Un texte de Anna Sophia Davies, paru dans le magazine La Recherche, avril-juin 2023. Au gré des périodes géologiques, un équilibre s'est créé entre les sources et les puits de CO2, modulé par la tectonique des plaques, l'altération chimique et le volcanisme. L'une des périodes les plus chaudes qu'ait connue la Terre remonte à 252 millions d'années, époque de la Pangée. Un excès de CO2 a augmenté l'effet de serre, provoquant l'éclatement du supercontinent et donnant son allure actuelle à notre globe. Et pourtant, elle bouge. Cet aphorisme en forme d'écho de la phrase apocryphe qu'aurait prononcée Galilée sur les mouvements de la Terre s'applique au mouvement des plaques continentales à la surface du globe. Cette tectonique des plaques a bouleversé la géophysique jusqu'à la climatologie, car le mouvement progressif des plaques modifie le climat même. Ainsi, lorsque les continents entrent en collision, ils forment des montagnes exposant les minéraux des roches qui subissent une altération chimique. Le CO2 présent dans l'atmosphère réagit avec l'eau de pluie pour former de l'acide carbonique. Cet acide peut réagir avec les minéraux de la roche de manière à l'éliminer de l'atmosphère. Autrement dit, cette altération chimique piège du CO2. Au cours des temps géologiques, un équilibre se fait alors entre l'émission naturelle du CO2 par les volcans et son piégeage par les roches. Cet équilibrage maintient la teneur en CO2 atmosphérique dans une fourchette qui aboutit à un effet de serre favorable à la vie sur Terre. Plusieurs facteurs peuvent perturber cet équilibre subtil. D'abord, aucun de ces deux processus, piégeage et émission du CO2, n'est constant. Le CO2, libéré par les volcans, est variable et les taux d'altération des roches fluctuent en fonction de la température, des précipitations et de l'emplacement des montagnes. Une montagne située près de l'équateur, où il pleut fréquemment, la partie nord de la cordillère des Andes en Amérique du Sud, absorbera davantage de CO2 dans ses roches, tandis qu'une montagne située dans le désert, le massif de l'Atlas en Afrique du Nord, n'aura pas cette occasion aussi souvent. Peut-on retracer comment cet équilibre a changé depuis la formation de la Pangée, le dernier supercontinent de la Terre, il y a environ 330 millions d'années? Lorsque la Pangée s'est formée, elle a fermé l'ancien océan Rique, créant à sa place une chaîne de montagnes massives le long de l'équateur, la chaîne Hercynienne. L'altération chimique des roches s'est alors accélérée, absorbant une grande partie du CO2 atmosphérique de l'époque. Ce phénomène a été aggravé par le développement de forêts denses. Les racines de cette multitude d'arbres ont brisé la roche et leurs feuilles ont absorbé de grandes quantités de CO2 de l'atmosphère par photosynthèse. Lorsque ces plantes sont mortes, certains de leurs restes ne se sont pas décomposés, mais ont été transformés en tourbe et en charbon, absorbant presque complètement le CO2 stocké dans l'atmosphère. Tous ces facteurs combinés ont considérablement refroidi la planète, entraînant la formation de glaciers dans les régions septentrionales du jeune supercontinent. Après cette période glaciaire, il y a environ 252 millions d'années, les niveaux de CO2 atmosphérique ont augmenté de façon spectaculaire. L'une des plus grandes éruptions volcaniques jamais enregistrées s'est produite dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie, couvrant de lave une superficie 4 fois plus grande que la France, soit environ 2 millions de kilomètres carrés, sur une période de 2 millions d'années. Dans un premier temps, la planète a continué à refroidir en raison des cendres volcaniques qui faisaient écran à la lumière solaire, puis de l'effet de serre dû au CO2 supplémentaire et à la sédimentation des cendres a pris le dessus sur le refroidissement. Les taux d'altération ont été réduits, puisque les montagnes apparues lors de la formation de la Pangée se trouvaient alors dans l'intérieur sec du supercontinent. La situation s'est emballée et les niveaux de CO2 dans l'atmosphère n'ont cessé d'augmenter, le taux d'altération parvenant à peine à les réduire. Résultat, la Terre s'est réchauffée de 8 degrés Celsius et la teneur en CO2 a atteint plus de 2000 parties par million ppm, à comparer au niveau actuel de 415 ppm. Cela a entraîné la plus grande extinction de masse de toute l'histoire de la Terre, l'extinction permienne, avec la disparition de 95% des espèces marines et de 70% des espèces animales terrestres. Des températures terrestres qui variaient entre 50 et 60 degrés Celsius. Dans cette période, le climat était l'un des plus chauds que notre planète ait connu. Le vaste intérieur de la Pangée était essentiellement désertique, avec des températures autour de 50 à 60 degrés Celsius, les régions humides et tropicales étant reléguées sur ses côtes. La plupart des terres composant la Pangée se trouvaient à l'équateur, ce qui empêchait la formation de calottes glaciaires polaires. En raison de ce climat particulier, les forêts tropicales et tempérées devaient alors s'étendre à des latitudes beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Tel était le climat jusqu'à ce que la Pangée commence à se disloquer il y a 180 millions d'années. Que peut-on inférer sur le futur de cette histoire? Tout d'abord, le CO2 d'origine anthropique dont les émissions continuent pour le moment d'augmenter, réchauffera la Terre. Toutefois, les intempéries finiront par altérer les roches qui piégeront de plus en plus de CO2. La solution au réchauffement actuel ne viendra toutefois pas de là, car ce processus est très lent. La quantité de CO2 dissoute dans la pluie est particulièrement faible et seule une petite quantité réagit avec les minéraux du sol à chaque fois qu'il pleut, de sorte qu'il faudra plusieurs millénaires pour diminuer la teneur en CO2 et réduire l'effet de serre actuel. Dans un avenir plus lointain encore, dans 200 à 250 millions d'années, un nouveau supercontinent finira par se former. Nous étudions plusieurs scénarios pour évaluer comment l'endroit où il se formera influera sur le climat de la Terre à long terme. Si tous les continents se rassemblent à nouveau, comme la Pangée, alors l'histoire pourrait bien se répéter avec une période initiale froide, suivie d'une période sèche et très chaude. C'était « La valse des continents et du climat », un texte de Anna Sophia Davies, paru dans le magazine La Recherche, avril-juin 2023.
Les gens se résignent à abandonner leurs droits. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 2 février 2024 dans La Presse. Vous ne trouverez pas de clients riches comme Crésus dans les bureaux du collectif juridique. On y accompagne plutôt des victimes de violences conjugales, des immigrants étourdis par notre système d'immigration kafkaïen, des locataires mal pris, des retraités ou des citoyens de la classe moyenne qui ont toutes sortes de problèmes judiciaires, mais pas d'argent pour se payer un avocat à 200 $ l'heure. Des gens qui ne savent pas où donner de la tête, comme les 20 victimes d'un copropriétaire d'immeubles à Montréal et de son frère, qui s'est enrichi à leurs dépens, qui les a harcelés pendant des années et qui vient d'être condamné par la Cour supérieure à leur verser 7 millions de $ grâce à la ténacité de maître Vincent Rangé, qui faisait du bénévolat au collectif juridique quand il a pris la cause. Avec la hausse du coût de la vie depuis un an, on voit la détresse que ça amène chez les gens. Ils se disent que la justice n'est pas accessible. Souvent, ils se résignent à abandonner leurs droits. C'est beau avoir des droits, mais quand tu n'es pas capable de les faire respecter, ça revient à un déni de droits, affirme maître Nathalie Raymond. Pour voir quel rôle essentiel jouent ces cliniques juridiques gratuites, j'ai passé deux après-midi à assister aux consultations offertes par les étudiants du collectif juridique, anciennement la clinique juridique du Mile End, l'une des plus importantes cliniques juridiques gratuites au Québec. Je me suis bien sûr engagée à respecter la confidentialité des échanges entre avocats et clients. Dans Parc Extension, l'un des quartiers les plus pauvres du Québec, comme dans Rosemont, le collectif juridique reçoit ses clients dans le sous-sol d'un centre communautaire. Il est aussi présent dans la Petite Bourgogne et le plateau Mont-Royal. Au propre comme au figuré, nous sommes bien au sous-sol de l'accès à la justice. Les clients sont souvent vulnérables et désemparés devant leurs problèmes judiciaires. Chaque année, les étudiants en droit et les avocats, membres du collectif, un organisme fondé en 2002, offrent des consultations gratuites à environ 400 personnes. La consultation initiale dure 1 heure et demie. Les clients exposent leurs problèmes, les étudiants posent des questions, prennent des notes. Sous la supervision de l'un des avocats du collectif, ils effectuent des recherches et donnent ensuite de l'information juridique à leurs clients. Le client, qui se représente souvent seul, est ainsi mieux outillé pour la suite des choses, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan psychologique, car la clinique offre les services d'une intervenante psychosociale. Le juridique doit s'accorder avec l'humain, dit Nathalie Raymond. C'est difficile pour une personne de prendre une décision quand elle voit juste un paquet de problèmes. On peut soutenir les gens là-dedans. Une véritable accessibilité à la justice, c'est ça. Les duels David contre Goliath sont fréquents au collectif juridique. Les lecteurs de La Presse en ont eu un exemple plus tôt cette semaine. Les frères Maher et Jean Balabanian ont été condamnés à payer 7 millions de $ à une vingtaine de copropriétaires d'un immeuble de 119 logements à Montréal parce qu'ils se sont enrichis à leurs dépens, les ont harcelés, espionnés, humiliés et épuisés judiciairement. C'est un avocat montréalais, Vincent Rangé, du cabinet Curiam Avocat, qui a représenté pro bono les 20 victimes devant les tribunaux, racontent nos collègues Tristan Péloquin et Yves Boisvert. Comment cette victoire judiciaire a-t-elle commencé? Maître Rangé faisait du bénévolat au collectif juridique. À l'époque, la clinique juridique du Maryland, en 2018, quand l'une des victimes est venue pour une consultation sur ses problèmes de logement. Il a ensuite représenté les victimes gratuitement à son compte pendant des années devant les tribunaux. Logement, famille, travail, immigration, affaires criminelles ou civiles, tous les problèmes sont les bienvenus dans les bureaux du collectif, comme on a pu le constater sur place. C'est gratuit et on sert tout le monde, peu importe son niveau de revenu. Au Québec, il y a aussi l'aide juridique, mais celle-ci est réservée aux gens à faible revenu. Par exemple, une personne célibataire sans enfant, gagnant moins de 38 771 $. Vous écoutez? Les gens se résignent à abandonner leurs droits. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 2 février 2024 dans La Presse. Nos clients sont souvent seuls et ont un rapport de force inéquitable, dit Maître Nathalie Raymond, directrice générale du collectif et spécialiste en droit de la famille. Ils travaillent, mais ont de la misère à payer leur appartement. Quand les besoins de base ont de la difficulté à être comblés, défendre ses droits devient un luxe. Les procédures en immigration sont complexes. Un étudiant étranger qui travaille 20 heures par semaine peut avoir recours à nos services, n'ayant pas les moyens de recourir aux services d'un avocat, dit Maître Léa Charbonneau-Lacroix, directrice adjointe du collectif et spécialiste du droit à l'immigration. Les frères Balabanian ont été condamnés à payer 7 millions de dollars à une vingtaine des copropriétaires de cet immeuble de 119 logements à Hanse-Cartierville parce qu'ils se sont enrichis à leurs dépens, les ont harcelés, espionnés, humiliés et épuisés judiciairement. En ce début de 2024, le collectif juridique aura bientôt une bonne nouvelle pour ses clients. En plus de communiquer de l'information juridique, il pourra enfin leur prodiguer de véritables conseils juridiques. C'est possible depuis l'adoption l'an dernier d'un projet de loi déposé par le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette. Jusqu'à tout récemment, les cliniques juridiques étaient dans une position un peu étrange. Elles pouvaient donner de l'information juridique. Voici les règles qui s'appliquent à votre cas. Mais pas de conseils juridiques. Voici ce que vous devriez faire. C'est un peu comme si un médecin nous donne de l'information sur les otites sans pouvoir nous prescrire un traitement précis pour notre mal d'oreille. Oui, ça aide grandement, mais on pourrait être plus efficace. D'ici le printemps, les avocates, elles sont 3 femmes sur 4, donc féminisons, du collectif, pourront recommander à leurs clients une stratégie, les aider à rédiger les documents de cour, leur dire clairement s'ils ont une cause. Ça va faire une grande différence. Il y a toutefois un bémol. Le budget et les ressources du collectif n'ont pas bougé. L'organisme communautaire survit grâce aux dons de la Chambre des notaires du Québec et de fondations privées. Le collectif aimerait que les cliniques juridiques communautaires puissent obtenir un financement plus stable de la part du gouvernement du Québec. Chaque année, le ministère de la Justice attribue des subventions aux cliniques juridiques. Mais c'est du financement par projet, rarement à long terme. Par exemple, le collectif ne reçoit pas un sou en subvention de Québec cette année. en raison du fort taux de roulement de son personnel, il n'avait pas fait de demande de subvention cette fois. Québec finance à la fois les cliniques universitaires dans les facultés de droit et les cliniques communautaires. En pratique, les cliniques universitaires ont les reins plus solides. Par exemple, Québec a accordé l'automne dernier une subvention supplémentaire de 500 000 $ à 5 cliniques universitaires pour leur permettre de prendre de l'expansion. Tout le monde se réjouit, avec raison, de cette injection de nouveaux fonds. Mais Nathalie Raymond fait remarquer que le collectif juridique fonctionne en pratique comme une clinique universitaire, en supervisant des étudiants dans le cadre de leurs cours. On fait le même travail, le même encadrement des étudiants, mais on n'a pas le même financement, ni la même reconnaissance, dit Maître Raymond. Difficile de la contredire sur ce point. La clinique juridique de l'Université de Montréal, qui a reçu 150 000 $ en subvention de Québec en septembre, aide environ 400 personnes par année. Le collectif juridique aiderait aussi 400 personnes cette année, sans un sou du gouvernement. Bref, comme bien des organismes sans but lucratif, le collectif juridique fait son gros possible avec les moyens du bord et un taux de roulement important parmi ses employés. Les 4 avocates employées sont toutes en poste depuis moins de 2 ans. Mais chaque semaine, les clients sortent de leur rendez-vous avec le sentiment qu'on les a écoutés et qu'on va les aider à trouver une solution à leurs problèmes. Parfois, les avocates du collectif vont même user de leurs contacts pour leur trouver un avocat pro bono. Par manque d'argent, le collectif juridique n'envisage pas à court terme de représenter ses clients devant les tribunaux, même si la nouvelle loi lui permet de le faire. « On n'en a pas les ressources financières », dit Nathalie Raymond. « On fait beaucoup avec peu de moyens », dit-elle. « Si on avait plus de moyens, on pourrait en faire beaucoup plus. » C'est l'accès à la justice des citoyens moins nantis, mais pas assez pauvres pour l'aide juridique, qui est en jeu. C'était « Les gens se résignent à abandonner leurs droits », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 2 février 2024 dans « La Presse ».